Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioalliance+.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume. Je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Aujourd'hui, nous rencontrons à nouveau M. Nicolas Cadenne, consultant, formateur, un juriste et ancien haut fonctionnaire spécialisé dans le droit public, les solidarités, l'emploi, le travail, les libertés fondamentales et bien évidemment la laïcité. Bonjour à vous M. Cadenne et merci d'être avec nous encore aujourd'hui.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Votre travail comme rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, rattaché au Premier ministre de 2013 à 2021, vous a bien évidemment fait travailler sur le rôle du clergé au sens des institutions, au sein des institutions hospitalières. Le ministère de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées définit l'aumônier ou l'aumônière comme la personne qui apporte un soutien spirituel au personnel et en particulier aux résidents et patients accueillis au sein de l'établissement. Il ou elle, car il ne faut pas l'oublier, ça peut être des dames, doit définir, organiser, animer des événements religieux dans l'établissement, accompagner individuellement les personnes à partir de leurs demandes dans le cadre de son domaine de compétences. Ce métier peut être pratiqué par un clerc ou un laïc de n'importe quelle religion, mandanté, autre appellation, ministre du culte. Donc on ne parle pas au nom, dans cette émission, au nom des aumôniers. Je les ai invités, mais ils tardent à venir. Mais sachez que je les ai invités et l'invitation est renouvelée. Mais là, on parle de leur situation administrative. Pouvez-vous, vous qui êtes un spécialiste de la laïcité, de ce genre de questions, nous parler de la laïcité qui, si je ne me trompe pas, est le principe de la séparation de la société civile, de la société religieuse, et donc de ses relations avec les cultes et les religions.
Oui, 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 effectivement, la laïcité rappelle qu'il y a plus qu'une distinction, il y a une séparation nécessaire à ce qui relève des religions et ce qui relève de la vie publique, civile, des pouvoirs politiques, des pouvoirs administratifs. Puisqu'effectivement, il faut faire en sorte que, et avec la laïcité, ce qui est garanti notamment, c'est que les religions, les organisations religieuses sont tout à fait indépendantes, elles s'organisent, elles exercent leur culte via des associations cultuelles indépendantes du pouvoir politique. Et de l'autre côté, il y a le pouvoir politique qui relève, qui émane de la souveraineté populaire, du vote des citoyennes et citoyens, et le pouvoir administratif qui en découle et qui est neutre et qui donc assure une égalité de traitement de tous les citoyens et citoyennes, quelle que soit leur appartenance propre. Donc effectivement, cette séparation est importante pour avancer ensemble, quelles que soient nos appartenances propres, pour qu'il n'y ait pas de religion favorisée et d'autres qui soient défavorisées, ou de non-religion qui seraient défavorisées aussi. Tout le monde est traité exactement de la même manière. Donc ça, c'est le principe, j'allais dire, de base de notre laïcité à la française, même s'il peut y avoir d'autres variantes dans le monde, ou parfois des systèmes tout à fait équivalents. Oui.
Voilà. Alors, une question un peu pour provoquer, hein. Est-ce que laïcité implique automatiquement un refus de l'éloignement des religions ?
Sûrement pas, non, la laïcité
c'est ce qu'on entend
trop souvent, vous avez raison.
C'est on caricature, c'est pour ça que j'ai fait une émission et vous avez défini la laïcité, ouais. Hein, et parce qu'on ne la définit pas trop dans ce qu'on écoute, parce que maintenant on lit plus beaucoup, on écoute beaucoup, on regarde beaucoup, mais la laïcité c'est la non-religiosité, non.
En fait, c'est simplement la laïcité, en l'occurrence, ça implique simplement que l'État soit aconfessionnel. Il n'a pas de religion, il n'a pas de conviction particulière. Il s'assure de traiter tout le monde de la même manière et il ne va pas traiter les gens selon son appartenance. Mais en revanche, ça garantit, ce même État aconfessionnel garantit, assure la liberté de conscience et la liberté de croire, de ne pas croire, la liberté de religion, donc notamment. C'est la liberté de religion comme la liberté vis-à-vis de la religion. C'est-à-dire qu'on peut tout autant, en France, promouvoir, pratiquer une religion, l'exprimer en public, même dès lors qu'on ne trouble pas l'ordre public, que l'on peut critiquer une idée, une croyance, quelle qu'elle soit, dès lors qu'on ne on n'appelle pas à la violence ou la discrimination contre des personnes à raison de leur religion. Mmh. C'est la distinction importante.
Oui, on peut dire que
faire.
Telle religion dit n'importe quoi.
Mais on ne peut pas discriminer.
Mais on ne peut pas dire il faut tuer les gens qui,
exactement, qui sont de telle religion. Ça, c'est la grande distinction à faire, en effet. Donc, évidemment que l'État n'a pas de, comment dirais-je, n'est pas anti-religieux, par exemple. Ça n'a aucun sens. L'État laïque n'est pas du tout anti-religieux. Simplement, il ne s'en occupe pas. Il ne s'en occupe que quand il y a un trouble, en fait, à l'ordre public, ou quand quelqu'un empêche autrui d'avoir une activité religieuse, il peut être sanctionné. Ou au contraire, quand quelqu'un oblige autrui à avoir une activité religieuse, il peut être sanctionné. Mais sinon, voilà, chacun fait comme il l'entend, évidemment.
Donc il faut vraiment enlever cette notion que laïcité est opposée à religiosité.
Au contraire, la laïcité va permettre à chacun d'avoir une vie religieuse et même d'exprimer.
De s'épanouir dans sa vie religieuse.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup cherchent à instrumentaliser la laïcité pour effacer toute religiosité et pour empêcher les gens d'exprimer des convictions et pour neutraliser la société civile. Mais ça, c'est une perversion de la laïcité. La laïcité, ce n'est pas neutraliser la société civile. La société civile, elle est diverse, elle a des convictions, des croyances, il faut les faire vivre dès lors qu'elles ne sont pas imposées à autrui. Bien entendu.
Parce que quand on voit religiosité et laïcité, c'est toujours le membre d'une religion qui voudrait que sa religion prenne le devant et devienne une religion d'État et que les autres soient moindres. Donc automatiquement, sur l'ensemble des religions, il y en aurait une gagnante et les autres perdantes. Avec un État laïque à religieux, c'est que toutes les religions sont possibles.
Tout à fait.
Donc c'est quand même une grande richesse, parce qu'il peut y avoir des concordances, des ponts, des antagonismes, mais qui sont structurants. L'antagonisme n'est pas forcément belliqueux, il peut être au contraire intéressant.
Il peut amener de la réflexion.
Voilà, je ne suis pas polythéiste, mais je suis passionné par le polythéisme indien et ces 300 millions de dieux qui sont qu'un symbole, mais et la ferveur religieuse en Inde. Et voilà, donc c'est quand même important. Alors comment sont choisis les aumôniers dans les établissements de soins?
Eh bien, effectivement, là encore, comme l'État est laïque, il est donc séparé des cultes, c'est pas à l'État, en effet, de décider qui va être l'aumônier de chaque religion. En revanche, il va se tourner vers les religions, les cultes, pour leur demander quels sont les aumôniers qu'ils souhaitent, ces cultes, désigner pour assister, effectivement, accompagner, notamment donc dans le soin, les patients à l'hôpital. Puisqu'effectivement, il faut le rappeler, l'article 2 de la loi de 1905 le précise, l'État, pour garantir la liberté de conscience dans des espaces contraints où finalement les personnes, les citoyens sont bloqués, sont contraints, pour garantir leur liberté de conscience, va prendre à sa charge des services d'aumônerie. Oui. C'est le cas dans les opérations extérieures militaires, c'est le cas dans les prisons, c'est le cas dans certains internats et c'est le cas dans les hôpitaux, puisque là, nous avons affaire, dans tous ces cas, à des citoyens qui sont bloqués, qui ne peuvent pas aller comme ils l'entendent, pratiquer leur culte sur leur lieu de culte. Donc, en effet, c'est à l'État de prendre en charge des personnes qui pourront les accompagner dans leur situation spécifique et dans leur lieu.
Vous le dites, parce que personne ne le voit comme ça, parce que quand on y est, on s'en rend compte, mais c'est trop tard. Et quand on va en visite, on ne s'en rend pas compte. Mais l'hôpital ou la clinique, c'est un lieu clos. Les gens n'ont pas leur liberté.
Tout à fait.
Et on n'a pas le droit de sortir en pyjama dans un couloir parce que la surveillante l'a interdit. Moi, j'ai connu des surveillantes qui interdisaient de sortir en pyjama et de sortir dans le couloir en pyjama. J'ai dit oui, mais quand même. Alors, les médecins, des fois, je me rappelle en tant qu'interne avoir lutté avec des surveillantes parce qu'on n'était pas sous leur tutelle, mais c'était rigide. Bon, c'est un peu une autre époque, mais c'est un lieu clos. Et donc, le fait que des aumôniers puissent venir et apporter une spiritualité et une religiosité, une ritualisation, est quand même une amélioration de cet enfermement, quand même.
Tout
l'hôpital enferme, quand même.
Oui, bien sûr. C'est un lieu contraint, en effet, où certains patients sont hospitalisés des jours durant. Sont en difficulté dans leur vie la plus intime et ne peuvent pas pratiquer leur culte alors qu'ils peuvent potentiellement être très croyants, très pratiquants. Donc, en effet, là, l'État va accepter que ces personnes se tournent vers des aumôniers qui pourront assurer cet accompagnement religieux ou spirituel. Et en effet, même si l'État donc n'a pas à décider de l'aumônier, il va forcément devoir se tourner vers les cultes, d'où de fait des relations quand même qui se font entre l'administration publique et les cultes pour ce suivi.
Pratiquement, pour avoir travaillé avec les aumôniers, quand j'étais à l'hôpital, je travaillais avec les aumôniers de toutes les religions. En faisant du soin palliatif, j'étais partie prenante. En fait, le directeur de l'hôpital a un tantième de poste qui va distribuer. En fait, c'est pas lui qui distribue, hein, c'est son administration, parce qu'on dit le directeur, parce que c'est lui qui signe, faut bien que... mais c'est pas lui qui va dire, c'est son administration et les groupes qui la constituent, en fait. Et suivant la représentativité, qui va se diriger vers les responsables de culte et qui va dire, voilà, j'ai un poste et demi, deux postes et demi, trois postes et demi, et en fonction du pourcentage de religion qu'il a. Évidemment, s'il y a 80% d'une religion, ça ne va pas être la même chose que s'il y a 2% de religion. Et il va attribuer des postes, et avec toute une alchimie et il faut que ça soit juste, et tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, et tout le monde peut contrôler. Donc, évidemment, il y a des...
L'objectif, en effet, c'est que tous les patients aient accès à, voilà, quelle que soit leur croyance, à un aumônier, et donc, après, ça va s'organiser aussi avec une possibilité d'avoir une salle dédiée aux aumôneries, qui là, sur le coup, du coup, ne sera pas neutre, à l'inverse de tout le reste du bâtiment de l'hôpital qui se doit d'être neutre. On peut avoir une salle polyculturelle, ou parfois une ancienne salle, une chapelle ou autre, qu'il peut y avoir dans pas mal d'hôpitaux, qui soit servent à tous les cultes, soit ne sert que au culte catholique, avec dans ce cas d'autres espaces pour les autres cultes. Mais effectivement, il faut aussi, généralement, dédier un espace pour que ces aumôniers puissent gérer leur activité Alors, de suivi religieux.
Pour vous témoigner de ce que je veux, si vous allez à l'hôpital Saint-Loup à Paris, il y a une chapelle magnifique, etc., avec des pavillons de l'ordre de Malte, etc. Bon, on n'est pas à Paris, à l'hôpital Saint-Louis, mais rue Hoche à Nîmes, il y avait une chapelle qui était différente, mais où différents cultes pouvaient avoir, depuis qu'il y a plus, il y a une salle polyculturelle au sein du CHU qui peut être utilisée pour des cérémonies ou pour des prières. Et il y a la possibilité aussi, je le sais par expérience, que des funérailles soient dites à la morgue de l'hôpital. Et donc il y a des lieux. Après, on peut toujours discuter de la grandeur, de la beauté, du luxe, etc. Mais ça nous regarde pas. Alors, quel est le statut des aumôniers dans les établissements de soins?
Les aumôneries ont des statuts un peu différents entre l'hôpital, l'armée ou la prison, mais ce sont des statuts qui peuvent varier entre un statut de véritable fonctionnaire et un statut d'intervenant qui va être simplement défrayé. Dans les prisons, généralement, ils sont simplement défrayés, alors que dans l'armée, ce sont des fonctionnaires rémunérés directement par l'État, avec un statut généralement de catégorie A ou B, et puis à l'hôpital, c'est un peu entre les deux. D'ailleurs, à l'Observatoire de la Laïcité, on avait demandé justement à ce qu'il y ait un travail réalisé par le ministère de l'Intérieur, qui a justement la charge des relations avec les cultes, pour renforcer, améliorer le statut des aumôniers, parce qu'aujourd'hui, du coup, il y a quand même une inégalité entre les aumôneries, entre celles qui dépendent de cultes bien établis, avec des ressources suffisantes, et celles qui dépendent de cultes moins structurés, moins bien structurés, avec moins de ressources. Et or, là, sur le coup, du fait de l'article 2 de la loi de 1905, normalement, l'État doit pouvoir assurer des services d'aumônerie à tout le monde, de la même qualité, j'allais dire, avec des aumôniers qui sont tous rémunérés et défrayés de la même manière. Donc ça, c'est pas encore une réussite, faut bien le dire. Donc il y a un gros travail encore à faire pour assurer un statut d'aumônier réel, véritable, dans toutes les catégories des espaces contraints. Aujourd'hui, il y a encore de vraies disparités.
Les aumôniers sont en fait les trois, les mêmes statuts dans les trois.
Et les mêmes statuts et dans les différentes fonctions, dans les différents services publics. Et aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas, malheureusement. Donc on constate des inégalités, évidemment, entre grandes religions.
Bon, mais je vous propose une trêve musicale avec Michel Legrand, Le Messager. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui M. Nicolas Cadenne. Quelles sont les différentes religions en France qui sont représentées par les aumôniers dans les établissements de soins? Existe-t-il des religions qui refusent d'avoir des aumôniers dans les établissements de soins?
Alors non, c'est plutôt des religions qui vont demander à en avoir. L'État, parce qu'il est laïque, n'a pas à s'opposer en soi à ce que telle ou telle religion ait des aumôniers, hein, bien entendu. C'est pas à lui de juger d'eux. Il y a eu une opposition à un moment donné par rapport à une organisation religieuse parce que l'État considérer que cette organisation pouvait avoir en son sein des dérives sectaires. Les témoins de Jéhovah les témoins de Jéhovah ont eu gain de cause devant la justice, donc ils ont pu obtenir les aumôniers en l'occurrence c'était dans les prisons,
oui.
Alors que l'État sur le coup avait voulu s'y opposer. Donc finalement les témoins de Jéhovah ont bien des aumôniers dans les prisons en France. Comme c'est une structure qui dispose de relativement pas mal de moyens par pas mal de dons de leurs fidèles. Ils ont d'ailleurs beaucoup d'aumôniers à disposition dans les prisons, davantage que... Enfin, ça dépasse largement le nombre de détenus, on va dire, de confession témoin de Jéhovah. Donc, effectivement, là, c'est pas à l'État de choisir. Hein, simplement, chaque organisation peut proposer des aumôniers. C'est aux patients, aux détenus, aux militaires, etc., de dire quel est l'aumônier de quel culte qu'il souhaite, et puis après l'État va se tourner vers ces organisations religieuses et leur demander donc un aumônier qui sera envoyé par cette organisation religieuse. Mais du coup, en France, selon les établissements, vous aurez plus ou moins de religions représentées, parce qu'il y a des établissements où il n'y a jamais eu de demande par tel ou tel patient ou détenu ou quoi de telle religion, donc cette religion n'est pas représentée. Mais sinon, évidemment, vous avez très généralement des aumôniers catholiques, protestants, musulmans, juifs, et puis parfois donc témoins de Jéhovah ou autres.
Oui, et puis si une religion n'en veut pas, évidemment, on ne le sait pas.
Puis parfois, il y a effectivement des difficultés. C'est que vous allez avoir des détenus ou des patients ou autres qui vont demander un aumônier. Et sur le coup, le culte qui est le sien n'est pas représenté là où il se trouve et il n'y a pas d'aumônier disponible. Ouais. Donc c'est un problème.
Nous avons parlé des aumôniers et des aumônières d'une manière un peu administrative, si vous me permettez l'expression. Mais pour vous, fonctionnaire et ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, sans vouloir parler de leur place, quel est exactement le rôle des aumôniers et aumônières dans le service de santé ?
Il est très important parce qu'on l'a dit, quand on se retrouve à l'hôpital et qu'on est hospitalisé sur du temps long... on est en fragilité. On est en fragilité physique et parfois aussi on est en fragilité psychologique. On n'est pas toujours bien. Et donc, pour des personnes qui sont croyantes, il est important de pouvoir être accompagné dans sa vie religieuse ou spirituelle dans ce moment de grande difficulté, de grande sensibilité et donc de fragilité. Ces aumôniers vont pouvoir parfois... quelque part aider même au rétablissement de la personne en ce qu'elles vont redonner un espoir ou tout du moins renforcer le moral du patient. Donc il est effectivement important. Et puis aussi, ça se fait bien entendu en lien avec l'équipe hospitalière. C'est-à-dire que pour des questions de rites funéraires, alors là, on est dans un stade évidemment beaucoup plus grave, mais c'est plus pour la famille. Pour des questions de ce type d'accompagnement, l'équipe hospitalière aura besoin de savoir comment ça se passe. Et donc, elle va se tourner vers l'aumônier en question qui pourra expliquer comment ça se passe, puisque la famille des défunts ont droit au respect de leur tradition également, dès lors qu'évidemment, ça ne perturbe pas le bon fonctionnement du service public hospitalier. Donc, l'aumônier, il est assez central quand même dans la vie hospitalière dès lors qu'il est question de religion. Il peut aussi jouer le rôle de médiation parfois quand il y a une incompréhension sur l'acte de soin prodigué entre un patient et le médecin. Il peut aussi jouer ce rôle de médiation, d'apaisement de tensions éventuelles.
Avant de nous quitter, je voudrais vous poser une dernière question, si vous me le permettez. Dans la définition du ministère de la Santé, des familles d'autonomie et des personnes handicapées, l'aumônier et l'aumônière est la personne qui apporte un soutien spirituel aux personnes et en particulier aux résidents et patients accueillis au sein de l'établissement. Faites-vous une différence entre spirituel et religieux? Si c'est le cas, quelle est-elle?
Oui, en fait, quand le texte dit cela, c'est pour englober le spirituel au sens d'accompagnement centré sur les sens, sur les valeurs, sur les questionnements existentiels, mais qui ne sont pas forcément reliés à une religion, hein, sans forcément référence religieuse, et les accompagnements qui vont expliquer ces questionnements, apporter des réponses à ces questionnements via la religion. Donc, par spirituel, ça englobe tout. Ça accompagne l'accompagnement en se fondant sur une religion particulière et ça accompagne l'accompagnement simplement plus par une réflexion philosophique qui n'est pas forcément à caractère confessionnel, en fait. Et effectivement, il peut y avoir des accompagnants des patients tout du moins, qui demandent un accompagnant, y compris par un aumônier d'une religion identifié, mais qui lui-même s'est un peu éloigné peut-être de la religion et qui va plus poser des questions et souhaiter des réponses de l'ordre spirituel au sens plus large de réflexion philosophique, sans forcément s'attacher à un dogme.
Eh bien, Nicolas Cadenne, je vous remercie encore infiniment de nous avoir éclaircir sur votre vision des aumôniers, aumônières et dans le service de santé, qui ont, et je peux en témoigner, en tant que soignant et surtout soignant en soins palliatifs, un rôle primordial et fondamental pour les patients, pour leurs familles, leur entourage, les communautés et bien évidemment pour les soignants. Parce que pour un soignant, c'est une chance de travailler avec un aumônier. Et en soins palliatifs, on ne peut pas ne pas travailler avec les aumôniers. Bon, évidemment, il y a des patients qui n'ont pas de religiosité, mais c'est quand même important. Alors, merci encore beaucoup à vous.
Merci à vous.
Et je rappelle que j'ai déjà invité les aumôniers à venir participer à Votre Santé, un trésor. Je souhaite signaler encore une fois que vous avez un site que l'on peut consulter, qui est les www.nicolascadenne.fr. J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. Nous pouvons citer un livre que vous avez préfacé. Jean-Bernard Paturé et Shérif Toubal. Marianne sur le divan. Laïcité et psychanalyse chez L'Harmattan. Un excellent éditeur, puisque c'est un de mes éditeurs. 2024, donc vous l'avez préfacé. Merci encore à vous, Monsieur Cadenne.
Merci à vous.
Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé en Trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.